La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous le savez, l'été s'achève et l'été, c'était la saison des vides greniers qui a vraiment battu son plein, enfin d'été, hein, de manière remarquable.
Oui, il y en a même encore quelques-uns, figurez-vous.
Il y a même des bourses au vinyle et des choses comme ça qui sont annoncées et qui sont toujours intéressantes à visiter. Eh bien, nous, de notre côté, nous avons fait notre petit vide-grenier.
Et on a trouvé plein de choses intéressantes, parce qu'effectivement, il y a des disques qui, finalement, étaient édités une fois et puis perdus dans l'ensemble des disques, et que, depuis 40 ans, ben, personne ne passe plus.
Oui, contrairement à ce qu'on pense, le jazz est loin d'être totalement réédité, le jazz des époques du 78 tours ou du premier micro-sillon. Et nous nous sommes enquis, donc, parce qu'il y a des listes, quand même, qui existent. On sait que telle chose existe et on ne l'a jamais pu l'entendre.
Nous allons vous faire bénéficier de nos trouvailles.
Et il y en a eu. Vous allez vous en rendre compte.
La première rareté que nous allons vous passer, c'est l'orchestre d'Armand Piron. Alors vous me direz, Armand Piron, ça sonne sacrément français.
Ah ben c'est pas étonnant, puisque ça se passe à Nouvelle-Orléans, au début du jazz, enregistré. Et c'est un orchestre formé de gens venant de familles de musiciens. À Nouvelle-Orléans, il y avait des familles de musiciens, d'ailleurs elles ont été répertoriées. Il y avait un annuaire des musiciens de Nouvelle-Orléans. Et on y trouve des gens comme les frères Bocage, les frères Piron.
Eh bien oui, ce sont des créoles, ces gens-là. Ils parlent souvent créole, c'est-à-dire une sorte de patois un peu mélangé, mais qui est quand même totalement à base de français.
Et qui se parlent d'ailleurs toujours plus ou moins. Hein.
Quand même moins que plus, hein, maintenant.
Bien sûr. Et il y a là-dedans un trompettiste intéressant qui s'appelle Peter Bocage, un des frères Bocage.
Encore un nom français.
Dont on peut apprécier le phrasé, parce qu'on est là dans l'adaptation au jazz et à ce qui va devenir le swing de toute une musique d'origine européenne, finalement. On sent la polka pas loin, quand même. Là.
Ah oui, il y a une sorte de petit parfum d'Europe là-dedans.
Et on sent aussi qu'on joue beaucoup sur partition. Le trompettiste improvise avec son phrasé à lui, mais le trombone qu'on entendra, lui, il est plutôt partition. Et puis après, dans le disque, il y a le clarinettiste. Alors lui, c'est pour ça aussi qu'on vous passe ce disque, parce que là, c'est vraiment une très grande rareté que d'entendre Lorenzo Tio.
Ça, c'est pas un nom français, comme vous l'entendez.
Et la famille des Tio, c'était une famille de professeurs de clarinette. À telle enseigne qu'avant Lorenzo Tio Junior, que vous allez entendre, il y a eu son père, avant lui, Lorenzo Tio Senior, c'est vous dire.
Voici donc Bright Star Blues.
Tendez l'oreille sur le clarinettiste qui joue vers la fin du disque, car dans sa manière de jouer se trouve tout le style Nouvelle-Orléans dont il a été un des très grands enseignants au début du siècle. Le disque suivant va nous faire entendre des musiciens très différents et pourtant, leur musique vient de la précédente.
Oui, c'est largement plus d'une dizaine d'années après. Donc déjà, le style a un peu changé. Il se rapprocherait à la limite un peu plus de ce que nous entendrions actuellement comme musique de jazz.
Là, il s'agit de musiciens blancs qui ont tous côtoyé les musiciens noirs et s'en sont inspirés.
C'est important cette histoire de blancs et de noirs parce que peut-être ça vous étonne. On est maintenant, nous, dans un pays extrêmement multiculturel, mélangé, etc. Mais à l'époque, les catégories blancs et noirs, surtout dans le Sud, étaient extrêmement séparées. Et un blanc qui allait jouer une musique de noir, c'est-à-dire le jazz, il franchissait vraiment une ligne.
Surtout quand il allait jouer avec des musiciens noirs.
Voilà, c'était, n'oubliez pas, que vers cette époque-là, il y avait des hôtels pour noirs, des hôtels pour blancs, des restaurants pour noirs, des restaurants pour blancs, et même des toilettes pour noirs et des toilettes pour blancs. On a du mal à s'imaginer une chose pareille.
Oui, sans compter qu'elle n'a certainement pas totalement disparu. En tout cas, il y avait
C'est quand même mieux maintenant.
Oui, en tout cas, c'était un tabou.
Oui.
Et les jeunes de Chicago, les jeunes blancs de Chicago qui ont vu arriver toute cette immigration noire dans le quartier sud qui importait ses propres musiciens, ils ont été totalement fascinés et ils ont été absorbés par cette culture. Parce que ce n'est pas une question de peau. Là, c'est une question de culture.
De culture, voilà. Absolument. Donc Ben Pola, comme son nom l'indique, c'est un Polonais.
Ah, et d'origine polonaise. Et voilà. C'est le batteur de l'orchestre, chef d'orchestre également. Et il a dans son orchestre un très bon trompettiste, très jeune, qui s'appelle Muggsy Spaniel, qu'on trouvera plus loin dans l'émission, qui est également de Chicago. Mais aussi un pianiste, et c'est pour ça aussi qu'on était très contents de découvrir cet enregistrement, car le pianiste qui s'appelle Bob Lane est un excellent pianiste, très inspiré justement du style de piano noir de l'époque.
Ce chef d'orchestre Ben Pollack, il n'a pas fait du jazz toute sa vie, figurez-vous.
Non, à un moment donné, il en a eu assez et il a opté pour la restauration. Il est devenu restaurateur.
Bah oui.
Il a ouvert un restaurant et comme vous allez voir, il n'a pas été le seul.
Il est devenu restaurateur. Est-ce que ses affaires ont bien marché ? On n'en est pas sûr parce qu'il a terminé tristement puisqu'il s'est suicidé.
Peut-être la musique lui manquait-elle trop ? Allez savoir.
Allez savoir. Oui.
Triste destin. morceau suivant, alors ça pour une trouvaille, c'est une trouvaille. Car nous nous demandions depuis longtemps dans quelles circonstances le batteur, fameux batteur de la Nouvelle-Orléans, Baby Dodds, avait pu rencontrer le chanteur de blues, Brownie McGee. Apparemment, il vivait sur deux planètes totalement différentes. Et pourtant...
Brownie McGee, c'est celui qui jouait toujours...
Avec Sonny Terry à l'harmonica.
Voilà, c'était vraiment le duo.
Ah oui, c'était un tandem... totalement institutionnel, établi. Eh bien, voilà un disque.
Eh oui, pour une fois, il n'est pas avec lui.
Et Brownie McGee sans Sonny Terry, c'est quand même également assez étonnant. Et puis au piano, il y a encore un personnage. Alors celui-là, on l'a connu.
C'est un phénomène.
C'était un sacré phénomène. Il vivait en Europe à l'époque où nous courions les spectacles de jazz et de blues. C'est le pianiste.
Alors il s'appelle, surnom Champion, naturellement c'est le meilleur, Jack. Alors, ça s'écrit Dupree. Mais en réalité, c'est tout simplement Dupré.
Au départ, oui.
Transformé en Dupré. Le portrait de cet homme-là, imaginez quelqu'un de très élégant, très soigné de sa personne, avec des boucles d'oreilles en diamant et plein de dents en or.
Mais tu sais pourquoi les dents en or? Parce que son surnom de champion vient du fait qu'il était également champion de boxe.
Absolument.
Et il avait fait remplacer toutes les connottes qu'il avait perdues par un magnifique râtelier en or massif. Et c'était des boucles d'oreilles spéciales, car ce n'était pas des pendentifs, c'était des diamants incrustés dans les lobes.
Ah oui, un peu comme les filles se mettent maintenant des...
Enfin, la composante féminine de Champion Jack Dupree m'échappe un peu, là, vu ce que j'ai vu. Voilà, c'est un pianiste rustique, mais vous savez, les pianistes rustiques en blues, ils ont vraiment un tel accent que
ils
ça...
ont du pep en même temps.
Et puis en plus, ils ont tout ce qu'il faut. Et le morceau s'appelle...
Auto Mechanic Blues. Il avait peut-être eu quelques problèmes avec sa voiture.
Eh bien là, dans le blues, il dit que sa transmission était hors service. Alors on peut se poser beaucoup de questions, comme d'habitude, sur les paroles de ce blues-là.
Your motor's missing, lady. Let me look up under your hood. Lady, I've got to look under your hood. Well, I've got a feeling that I can do your motor some good. Your battery needs charging. Your plugs ain't fine at all. Your battery needs charging. Your plugs ain't fine at all. Your rear is very dry. It is completely out of oil. Your gears have been stripped. Your transmission is awful dry. Your gears have been stripped. Your transmission is awful dry. Let me be your mechanic, baby, and you'll be satisfied. Who checked this motor before you brought it to me? It's all out of time and everything. That ain't no way to take care of a car. You got to change all, even if your old man ain't around. You should change it every 1,000 miles. You want to keep the motor running good. My prices ain't high. I can make this motor go. My prices ain't high, baby. I can make this motor go. When I get to grinding your valve, you'll be ready to ride some more. I'll give you a number one job because I like your little machine. I'll give you a number one job because I like your little machine. It's not your generator, mama. You've been burning bad gasoline.
Maintenant, on va vous passer une sorte de Radio Marjoride américaine locale. C'était après la guerre de 40. Et là, on faisait chaque samedi soir des balles qu'elle offrait à ses auditeurs.
Et c'est très curieux le rapprochement qu'on peut faire avec Radio Marjoride, parce que c'était effectivement donc une radio locale basée à Baltimore, mais qui inondait large, puisqu'elle allait surtout dans la région de Washington, où il y a quand même énormément de monde. Donc évidemment, par rapport à la zone de chalandise, elle était plus favorisée que Radio Marjoride, et elle pouvait... quand elle recourait au jazz une fois par semaine, comme Radio Marjoride, faire appel à des vrais musiciens plutôt qu'à des disques. Et chaque samedi soir, il y avait une émission qui s'appelait...
Jazz on the air, ce qui veut dire...
Jazz sur les ondes.
Voilà.
Et à l'intérieur de ce jazz sur les ondes, la seule trace que nous ayons de ça s'appelait les sessions swing du samedi soir. Des choses assez étonnantes dans ces sessions swing du samedi soir que nous avons découvert par des moyens totalement inavouables. Et la première des choses que nous avons trouvées est un délectable duo entre un guitariste et un batteur.
Batteur assez méconnu d'ailleurs.
Mais là, il a tout fait pour. Il a tout fait pour parce que ce batteur méconnu, il s'était surtout consacré... au travail en studio, aux choses comme ça. Et donc, on le rencontre dans tout un tas de choses de variété. Mais c'était un des meilleurs batteurs de jazz qui soit. Et, évidemment, comme le jazz n'était qu'une petite partie de son activité, il n'a jamais eu dans ce domaine la place qu'il méritait. Il s'appelait Spex Powell.
Par contre, le guitariste, alors là, c'est Hall Casey. Alors lui, il est connu. Hein.
Il est connu puisque c'était le guitariste attitré de Fats Waller et que nous nous trouvons là... à quelques années de la mort de ce fabuleux pianiste. Et son guitariste, eh bien, il a continué à mener sa carrière et comme vous allez pouvoir entendre, il l'a mené de manière tout à fait brillante. Le morceau s'appelle...
Buck Still Jump.
Ce qui veut dire Buck Swing Toujours. Et comme Buck, c'était un des surnoms de Hall Casey, je pense que le titre est éloquent.
Avec la même radio américaine.
Locale.
Locale. On va vous passer, bien sûr, un autre orchestre, puisqu'il changeait d'orchestre chaque semaine. Et cette fois-ci, ils vont nous jouer Sweet Georgia Brown. Alors là, il y a de sacrés musiciens.
Ça, c'est un super standard. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir ce que ces musiciens vont faire de cette air archi connue. Mais il y a lieu de souligner d'abord que cette radio locale, eh ben, elle existe toujours. Et qu'elle a allègrement fêté ses 60 ans.
Alors, quand on vous a parlé de juste après-guerre, ce que nous vous passons, vous imaginez que ça fait quand même un petit bail. Hein.
Un petit bail. Alors, je ne sais pas si les sessions jazz du samedi soir ont continué, mais en tout cas, celle qui vient maintenant, qui situe donc au tout début de cette radio, elle met en scène les sourdoués de l'époque, les jeunes sourdoués de l'époque, et... des gens qui avaient une technique absolument époustouflante et qui, malheureusement pour moi, parce que j'aurais mieux aimé les entendre continuer à jouer du jazz, mais leur technique les a poussés dans des directions très techniques.
C'est-à-dire qu'au fond, ils enfilaient un peu les perles musicales à toute vitesse. C'était éblouissant pour la technicité. Mais alors pour l'âme, c'était un peu passé à la trappe.
C'est ce qu'on a appelé la musique bebop, pour laquelle nous n'avons ni goût ni compétence. Mais là, tous ces jeunes musiciens, on les trouve au début de leur carrière et on voit quand même qu'ils ont des dons absolument exceptionnels. Là, on soulignera en tout cas le ténor qui s'appelle, le premier qu'on entend dans le disque s'appelle Alan Eager, le trombone Bill Harris et surtout le jeune trompettiste Fats Navarro.
Oui, il est impressionnant quand même.
Vraiment impressionnant, mais qui lui n'a pas eu beaucoup l'occasion de se faire connaître par la suite parce qu'il était complètement sous la dépendance de l'héroïne et il est mort à 27 ans.
Oh là.
Voilà. On l'appelait Fat Girl. Triste, hein ?
Triste.
En tout cas, le batteur, lui, Buddy Rich, et là, il a fait une carrière dans le swing absolument extraordinaire. Enfin, voilà, tous ces jeunes gens réunis par la clairvoyance d'une station de radio locale, c'est quand même intéressant à souligner. Et le morceau s'appelle, on le rappelle...
Sweet Georgia Brown.
Thank you.
suivant, c'est une sorte de petite scène de théâtre. Imaginez-vous un monsieur qu'on avait surnommé Mr. 5x5, ça veut dire 5 par 5.
5 pieds dans tous les sens. Cubique.
Cubique, et oui, parce qu'il était franchement énorme et pas très grand. Et alors, là, il a pris un morceau assez connu où il y a une fille qui raconte que tout ce qu'elle pouvait faire pour gagner de l'argent et puis qu'elle s'en désolait parce que ça marchait plus très bien. Et lui, eh ben, il va jouer les deux personnages. La fille qui voudrait séduire, n'est-ce pas? Et quand on dit séduire, c'est contre de l'argent, n'est-ce pas? Et puis le monsieur, ce qu'il répond à la fille quand elle lui propose un certain nombre de choses. Alors il prend une espèce de voix de tête pour faire la fille. Alors quand on voit ce gros monsieur qui part comme ça, les gens étaient écroulés. Hein. Et alors en plus, ce chanteur, eh ben, il joue du piano.
Et c'est très rare d'entendre au piano, parce que ce n'est pas son vrai métier de musicien. Mais comme beaucoup d'autres musiciens, il a un deuxième instrument, Roy Eldridge, joue du piano aussi. Et le batteur de ce disque, le grand Joe Jones, eh ben, nous l'avons entendu un jour, comme ça, dans un coin de studio, prendre le piano et jouer Stride. Personne ne savait que Joe Jones joue du piano. C'est comme ça. Voilà ce morceau qui s'appelle...
Tricks ain't walking no more. Ce qui veut dire...
Toutes ces astuces-là, ben, ça ne marche plus.
I told my gal to learn some sense. Stop laying around that Elite Club getting drunk at my expense. Every dollar and dime she spends got a drop of my blood on it. Then she runs to me with that same old jive, you know. Daddy, tricks ain't walking no more. What? Tricks ain't walking no more. Woman, what are you talking about? I've been in my window since the crack of day, trying to make a dollar for our house rent to pay. Yes, I know. You know the landlord? She's singing the blues. Listen at her now, yeah? Cause she can't sell that dirty booze. I never seen it break so hard for low-down women before. Since tricks ain't walking no more. Ain't it a shame? Yes, it's a dirty low-down shame. Man, it's a dirty, dirty low-down shame. My gal's been gone since the rising of the sun. 40 tricks done passed, and she hasn't caught a one. Now you know that's a shame, that's a dirty shame. That's a dirty, dirty, low-down shame. Of course, women are the weak vessel, men they're to blame. If she don't catch one, it's gonna be a dirty shame. Here she come, listen at her. Bringing the cops with her. Daddy, tricks ain't walking no more. What? Tricks ain't walking no more. I've been in my window since the crack of day, trying to make a dollar for our house rent to pay. You know, woman, the landlord, she's singing the blues, knocking again, just cause she can't sell that dirty booze. I never seen it break so hard for low-down women before. Since tricks ain't walking no more. You hear me, boy? Tricks ain't walking no more. I'm telling you.
Voici maintenant un trompettiste qui s'appelle Charquet Bonanno. Sais-tu qui était Charquet Bonanno?
Je suppose que Bonanno, c'est un nom italien.
Bingo!
Et puis Charquet, bon, ben c'est...
Oh ben c'est un surnom, ça.
C'est le surnom.
D'ailleurs, à mon avis, il a dû ce surnom à son activité dans le milieu musical, où on appelle les gens qui réussissent des requins.
Bonbon.
Et parce qu'il a été très actif, Charquet.
Oui, il a commencé d'ailleurs très très jeune sa carrière, puisqu'il avait entre 15 et 16 ans.
Il est né tout près de la Nouvelle-Orléans, dans cette espèce de ville de loisirs créée par M. Milne et qui s'appelait Milneburg, au bord du lac Pontchartrain. Et c'était une famille très pauvre. Et lui, attiré par la musique, il a fréquenté les musiciens noirs de son époque et il leur doit beaucoup.
Et il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a été dans les riverboats, il faisait des tournées. Enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment le propagateur de la musique Nouvelle-Orléans, mais de façon très naturelle.
Hein. Ben, c'était sa musique.
Voilà.
Et il est toujours revenu à Nouvelle-Orléans. C'était sa base, son point fixe. Et d'ailleurs, il y est mort à un âge tout à fait respectable pour un musicien. Comme il a eu naturellement l'occasion toute naturelle de côtoyer King Oliver, le jeu de trompette de Charles Bonanno s'en ressent très fort, ce qui est très, très agréable pour nous d'ailleurs.
Et à la suite logique, il est devenu aussi un adepte.
Ah, il est devenu un disciple de Louis Armstrong.
Et disciple de Louis Armstrong.
Et là, nous allons entendre un morceau qui s'appelle...
Deeper Mouth Blues.
Et ça, c'est un morceau qui faisait partie du répertoire, justement, de l'orchestre où King Oliver et Louis Armstrong étaient deux trompettistes, le maître et le disciple, au début des années 20, et que Sharkey Bonanno a certainement entendu, en vrai, le vénère.
Eh bien, c'est Lucky Roberts. Alors, vous me direz, Lucky, vous savez, tout le monde, Lucky Luke, on connaît, c'est celui qui a de la chance.
Hey, Lucky, et je te rappelle que les cigarettes Lucky Strike étaient au départ fabriquées pour des parachutistes. Strike, c'est une formation de parachutistes. Et c'était le bataillon heureux.
Eh oui, celui qui a de la chance.
Des années 40.
Il descend sans problème. Voilà, bon.
Sauf celui qui a atterri sur le clocher de Sainte-Mère-l'Église. Enfin, c'est une autre histoire.
Bref. Eh bien, non, figurez-vous que ce... Lucky Roberts, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il s'appelait en réalité Le Keith.
De son nom de famille.
De son nom de famille, voilà.
Prénommé Charles.
Alors lui, c'est un pianiste Stride. Alors je crois qu'on vous a déjà pas mal parlé du Stride, mais on va quand même vous en redire un petit mot. Vous savez, le Stride, ça vient du ragtime. Et le ragtime, c'était les premiers morceaux de piano, souvent joués dans les plantations par les esclaves noirs que leur maître avait instituée, musicien de la plantation.
Oui, ils portaient de la partition, puis quand même, ils la mettaient à leur
ça
son.
Ça devenait un peu de
jazz. Ça commençait à swinguer, et c'était déjà du ragtime, ce qui veut dire briser les temps. Lucky Roberts, on a beaucoup de chance avec lui, parce qu'à travers lui, on a toute l'évolution de ce jeu de piano. Et il a plus tard fait partie des grands bonshommes du piano stride, comme Fats Waller ou James P. Johnson, qui l'a d'ailleurs influencé. Mais il est très peu connu par rapport à eux, très peu connu. Parce qu'il a été essentiellement compositeur, il a été entertainer, c'est-à-dire animateur de clubs et de spectacles.
Oui, en réalité, il était au fond un homme un peu à tout faire, mais surtout pour des occasions, oui. Pas forcément pour des disques.
Non, des soirées privées. Le studio, il s'en moquait éperdument. Oui, oui. Il a enregistré très peu.
Voilà.
Très peu. Et même, il a fini par avoir son propre club à lui.
Au nom français.
Au nom français.
Alors, on va vous le dire en anglais. Le rendez-vous. Et puis en français, le rendez-vous.
Le rendez-vous. Mais en anglais, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'en français. Quand tu dis j'ai rendez-vous avec mon inspecteur d'académie, ça maintenant c'est une chose qui est terminée, mais ça a pu se faire. Eh bien, c'est un rendez-vous en vrai. Mais tandis que là-bas, le rendez-vous, c'est toujours un rendez-vous galant.
Et c'est rendez-vous avec un homme ou une femme aimée, voilà.
Et ce sacré Lucky Roberts, c'est un tellement bon pianiste que nous allons passer de lui deux morceaux à la file. Le premier s'appelle...
Pork and Beans. Oh, que c'est bon ça, du porc et des haricots. Alors ça, c'est vraiment la Nouvelle-Orléans, voilà. Nourriture de la Nouvelle-Orléans.
Et après vous avoir ouvert l'appétit, Lucky Roberts se jouera un morceau délectable qui s'appelle...
African Ripples, ce qui veut dire coiffure à l'africaine.
Thank you.
Le morceau suivant, il va être chanté par une fleur modeste. Elle s'appelle Mary Knight et c'était la partenaire chanteuse de Sister Rosetta Tharpe, qui elle est beaucoup plus connue bien sûr.
Elles ont fait ensemble pas mal d'enregistrements en duo qui sont vraiment très réussis. Mais là, on a trouvé un disque où, de la même époque d'ailleurs, où elle est seule.
Ce qui est rare.
Mais elle est accompagnée par le trio Sammy Price, qui accompagnait d'habitude dans ses enregistrements Rosetta Tharpe quand elle était seule. Et c'est intéressant d'ailleurs pour ceux qui connaissent Rosetta Tharpe de pouvoir faire un peu la différence.
Elle n'a jamais fait que du gospel.
Et elle n'a pas connu ce conflit qu'a dû subir Rosetta Tharpe, qui faisait à la fois du jazz avec Lucky Millinder et du gospel dans un contexte plus religieux, à tel point que les autorités l'ont sommé de choisir.
Les autorités religieuses.
Voilà, il fallait choisir entre la musique du bon Dieu et la musique du diable. On dirait une pièce de Jean-Paul Sartre. Voici donc Mary Knight, dont il faut souligner que c'était une très belle femme, chantant tout en blanc. Magnifique, hein, il y a des photos d'elle, magnifique. La pin-up du gospel.
Et cette femme, belle comme tout, vous savez pas ce qu'elle nous dit ? What could I do ? Qu'est-ce que je pourrais faire ?
En tout cas, elle va commencer par chanter.
What could I do? What could I do? What could I do? What could I do without the comfort of his word? What could I see? What could I say? How could I feel? How could I pray? What could I do if it wasn't for the Lord? Yes, he's my bread, my water, my life. Then he's my everything, and he helps me whatever the years may bring. Yes, he keeps me young, keeps me strong, keeps me right when I'm doing wrong. What could I do if it wasn't for the Lord? What could I do? What could I do? What could I do? What could I do? What could I do without the comfort of his word? How could I feel? How could I pray? What could I do if it wasn't for the Lord? Yes, he's my mother, my father, my sister. Then he's my brother too. And he helps me when I don't know what to do. In my cloud get dim, friends move out, then my Jesus moves in. What could I do if it wasn't for the Lord?
Tout à l'heure, au début de l'émission, nous avons parlé de Ben Pollack, qui était le batteur des New Orleans Rhythm Kings en particulier. Et bien voici maintenant leur trompettiste dans ce disque fort rare, enregistré par l'orchestre de Paul Mares, qui était donc ce trompettiste, et qui lui a connu un destin analogue à celui de Sharkey Bonanno, né à la Nouvelle-Orléans, musicien blanc, mêlé au contexte musical de la ville, très multiculturel. Riverboat, voyage à Chicago, il est resté à Chicago, et un jour, il a fini par abandonner la musique, et puis il a ouvert un club qui s'appelle le Tin Pan Alley Club, en hommage à Broadway, hein, Broadway vu depuis Chicago, pourquoi pas. Et il nous a laissé une bonne série de disques qui s'y sont pris à deux reprises pour arriver à l'enregistrer. La première séance du début du mois de janvier 1935 était complètement ratée, rien n'a été publié. Mais la deuxième séance, les mêmes morceaux ont été réussis. En voilà un, il s'appelle Nagasaki et c'était avant la fameuse bombe atomique.
«
Notre dernier morceau, on va vous passer The Lonesome Road de l'orchestre de Ted Lewis. Et ça va être bien intéressant parce que ce Ted Lewis, il est comme son morceau. On disait de lui, il a un pied dans le jazz et l'autre toujours ailleurs. Et ce morceau, on a l'impression à la fois que c'est du jazz pur et en même temps que c'est du jazz un peu, je dirais entre guillemets, blanc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a plein d'influences là-dedans, y compris ces morceaux, vous savez, qu'on appelle de musique klezmer, juif.
D'ailleurs, c'est par là que le clarinettiste Ted Lewis, tout jeune, avait commencé la musique.
Et ça se sent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas que jazz. C'est jazz et augmenté de toute une culture européenne dans ce morceau.
Et pourtant, c'est un formidable hommage à la musique noire, au gospel. Il y a tout un tas de choses qui s'entremêlent là-dedans. Ted Lewis, on ne l'entend pas du tout en soliste. Là. Il fait les fonds comme tout le monde dans cet orchestre. Le morceau, en fait, il est axé sur la complémentarité des gens qui chantent très bien et du trompettiste merveilleux qui joue derrière. Côté musique, il y a plusieurs choses à souligner dans le disque qui vient. D'abord que le chant, c'est un quartet noir de gospel qui avait été engagé pour la circonstance par Ted Lewis. Et puis, c'est les trompettes. Là, le disque, c'est un des plus beaux disques de Muggsy Spanier, qui était un trompettiste de Chicago, qui à l'époque était d'ailleurs encore très jeune, et qui, lui, avait appris la batterie à 13 ans, la trompette à 15, et était tout le temps fourré dans le quartier sud de Chicago. Là, c'est un cas de pratique, c'est un cas d'assimilation culturelle exemplaire, Muggsy Spanier. Et vous entendrez au début du disque, car il y a deux trompettes dans cet orchestre. Le premier qu'on entend, une technique très classique, un vibrato un petit peu tremblotant, il s'appelle David Klein, et les réponses qui lui sont faites par Muggsy Spanier vous montreront toute la distance qui sépare l'approche d'une musique par rapport à une autre. Muggsy Spanier, il joue black, comme on dit chez les musiciens. Et après, quand les gens commencent à chanter, c'est lui qui fait la trompette jusqu'au bout du disque. Franchement, c'est ce que j'ai entendu de plus beau de ce type-là.
Profitez-en.
Thank you. congregation please be seated, and the first let us take the front row, and the old timers away back and sit down. Look way, way up, brothers and sisters, and seek your maker before Gabriel blows his horn. Blows. Brothers and sisters who are listening to me over the radio here this evening, if you can come to our little meeting, send in your contribution. Bless you, sister. Hallelujah. Lord, the congregation, please rise and sing the last stanza all together. Now come to a discontinuation. I'll be on the front door going out.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.